Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 6, chapitre 12. Sommaire. Tout ralentissement du mouvement suppose un mouvement antérieur, et la tendance au repos ainsi que le mouvement est toujours dans le temps. Rapport du temps au mouvement et au ralentissement. Définition précise du repos. Le mouvement s'arrête toujours dans une partie du temps. Paragraphe 1. Comme tout ce qui, par nature, doit se mouvoir ou rester en repos, se meut ou reste, quand toutes ses conditions naturelles d'action, de temps et d'espace sont remplies, il faut nécessairement que ce qui se ralentit et s'arrête soit en mouvement au moment où il s'arrête, car s'il ne se meut pas, c'est qu'il sera en repos. Mais il ne se peut pas que ce qui est en repos tende à se reposer. Paragraphe 2. Ceci étant démontré, il est clair aussi que c'est dans le temps que le corps s'arrête, puisque tout ce qui se meut ne peut se mouvoir que dans le temps. Or, il a été démontré que ce qui s'arrête devait être en mouvement. Donc, nécessairement, c'est dans le temps que le corps s'arrête. Paragraphe 3. D'un autre côté, c'est au temps que nous rapportons les idées de vitesse et de lenteur, car le corps peut s'arrêter plus vite ou plus lentement. Paragraphe 4. Mais le mouvement qui s'arrête primitivement dans un temps doit s'arrêter dans toute partie quelconque de ce temps. En effet, le temps étant divisé, si le mouvement ne s'arrête dans aucune de ses parties, il ne s'arrêtera pas non plus dans le temps entier. Et, par suite, le mouvement qu'on suppose arrêter ne s'arrêterait pas. Mais, s'il s'arrête dans une des deux parties, il ne s'arrête plus alors primitivement dans le temps relativement à un autre, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut pour le mobile. Paragraphe 5. Mais, de même, qu'il n'y a pas de primitif où se meuve le mobile. De même, non plus, il n'y a pas de primitif où s'arrête un corps qui s'arrête. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de primitif ni pour le mouvement ni pour l'arrêt. Soit AB, par exemple, le primitif où le corps s'arrête. Il n'est pas possible que ce primitif soit sans partie, parce qu'il n'y a pas de mouvement possible dans ce qui est sans partie, attendu que le corps doit s'être mu entièrement dans une partie quelconque. Et il a été démontré que le corps qui s'arrête a dû être d'abord en mouvement. Toutefois, si AB est divisible, le corps peut s'arrêter dans une de ses parties quelconques, car on a fait voir plus haut que le mouvement s'arrête dans une des parties de la chose où il s'arrête primitivement. Mais, comme il y a un temps dans lequel il s'arrête primitivement et que ce n'est pas un indivisible, puisqu'au contraire le temps est toujours divisible à l'infini, il n'y a rien dans le temps où primitivement le corps s'arrête. Paragraphe 6. De même, pour ce qui est en repos, il n'y a pas non plus de temps où il ait été primitivement en repos, car le corps n'a pu se reposer dans un temps sans partie, parce qu'il n'y a pas de mouvement possible dans l'indivisible, et que là où est le repos, là aussi est le mouvement. En effet, Nous avons dit qu'une chose est en repos quand elle ne se meut pas dans les conditions où naturellement elle devrait se mouvoir. Nous disons encore qu'il y a repos quand la chose reste actuellement tout ce qu'elle était auparavant, et notre jugement ne peut pas alors porter sur un seul terme. Il faut qu'il porte sur deux termes tout au moins. Par conséquent, le temps dans lequel le repos a lieu ne peut pas être sans partie. Mais si l'on admet que le temps est divisible, c'est dans une de ces parties que le repos se produira. Et l'on pourra répéter ici la démonstration qu'on a donnée plus haut. Donc, il n'y a point ici de primitif. Paragraphe 7. Cela tient à ce que tout mouvement et tout repos a lieu dans le temps. Or, le temps ne peut être primitif, non plus que la grandeur, et non plus qu'un continu quelconque, puisque tout continu est divisible à l'infini. Chapitre 13. Sommaire. Le mobile, durant le temps primitif où il se meut, ne peut être dans un lieu primitif. Application de la définition du repos. Il n'y a pas plus de primitif pour le lieu que pour le temps et pour le mouvement. Paragraphe 1. Comme tout mobile se meut nécessairement dans le temps, et qu'il change d'un certain état à un autre état, il est impossible que dans le temps en soi où il se meut, et non pas seulement dans une partie de ce temps, le mobile soit dans un lieu primitif quelconque. Paragraphe 2. En effet, pour qu'on puisse dire d'une chose qu'elle est en repos, il faut et que la chose même et que chacune de ses parties soit, durant un certain temps, dans le même état. Et nous entendons ainsi qu'il y a repos lorsqu'il est vrai de dire, dans un premier instant et dans un autre instant, que la chose tout ensemble et chacune de ses parties reste dans un état identique. Si c'est bien à l'idée qu'on doit se faire du repos, il n'est pas possible que le corps qui change soit tout entier dans tel ou tel rapport, durant le temps qui est considéré comme primitif. Car le temps est toujours divisible, et par conséquent, ce sera dans une partie et une autre partie de ce temps qu'il sera vrai de dire, et que la chose et que ses parties sont dans le même état. Paragraphe 3. Si en effet il n'en était pas ainsi, et si c'était durant un seul des instants, ce ne serait plus pendant aucun temps que la chose serait dans tel état, mais ce serait alors pendant la limite du temps. Paragraphe 4. Dans l'instant, le corps existe bien toujours de quelque façon, mais il n'est pas en repos, car dans un instant, il ne peut y avoir ni mouvement ni repos. Il est vrai, strictement, de dire que, dans un instant, le mouvement est impossible et que le corps existe dans un état quelconque de rapport. Mais il ne se peut pas que dans le temps il y ait un rapport de repos, car il en résulterait une absurdité que ce qui se meut est en repos. Chapitre 14. Sommaire. Réfutation de la théorie de Zénon, niant la possibilité du mouvement. Les quatre arguments de Zénon. Examen de ces quatre arguments. Démonstration de l'erreur de Zénon. Théorie nouvelle substituée à la sienne. Preuve de la vérité de la théorie qui admet le mouvement. Paragraphe 1. Mais Zénon fait un faux raisonnement. Si toute chose, dit-il, doit toujours être soit en mouvement, soit en repos, quand elle est dans un espace égal à elle-même. Et si tout corps qui se déplace est toujours, pendant chaque instant, dans un espace égal. Il s'ensuit que la flèche qui vole est immobile. Mais c'est là une erreur, attendu que le temps n'est pas un composé d'instants, c'est-à-dire d'indivisibles, pas plus que nulle autre grandeur. Paragraphe 2. Zénon a, sur le mouvement, quatre raisonnements qui ne laisse pas que d'embarrasser ceux qui tentent de les réfuter.
Paragraphe 3.
D'abord, il prétend prouver que le mouvement n'existe pas, attendu que le mobile passe par la moitié avant d'arriver à la fin. Nous avons réfuté ce sophisme dans nos discussions antérieures. Paragraphe 4. Le second sophisme de Zénon est celui qu'on appelle l'Achille. Il consiste à dire que jamais le plus lent, quand il est en marche, ne pourra être atteint par le plus rapide, attendu que le poursuivant doit, de toute nécessité, passer d'abord par le point d'où est parti celui qui fuit sa poursuite, et qu'ainsi, le plus lent conservera constamment une certaine avance. Paragraphe 5. Ce raisonnement revient à celui de la division par deux. Et la seule différence, c'est qu'ici, l'on ne divise pas continuellement en deux la grandeur surajoutée. On tire bien de cet argument cette conclusion régulière qu'il n'est pas possible que le plus lent soit jamais atteint, mais c'est toujours absolument la même chose que dans la division par deux, puisque, de part et d'autre, on conclut qu'on ne peut arriver au bout de quelque manière qu'on partage la grandeur. On ajoute que même le plus rapide ne pourra jamais rejoindre le plus lent, et c'est plus pompeux et plus tragique. Paragraphe 6. La solution est donc des deux côtés nécessairement identiques. Mais supposez que ce qui est en avance n'est pas rejoint. C'est là qu'est l'erreur. Sans doute, tant qu'il est en avance, il n'est pas rejoint. Mais en définitive, cependant, il est rejoint, puisque Zénon doit accorder que la ligne finie est parcourue. Paragraphe 7. Voilà donc déjà deux des arguments de Zénon. Paragraphe 8. Le troisième, dont nous venons de parler à l'instant, c'est que la flèche qui vole dans les airs reste en place. Et de ce principe, on tire cette conclusion que le temps est, selon Zénon, composé d'instants. Mais en repoussant ce principe, que l'on ne concède point, il n'y a plus d'argument. Paragraphe 9. Quant au quatrième, il s'applique à des masses égales qu'on suppose se mouvoir également, par exemple dans le stade, mais, en sens contraire, les unes partant de l'extrémité du stade et les autres du milieu. Et l'on prétend démontrer que le temps, qui n'est que la moitié, est l'égal du temps, qui est le double. Paragraphe 10. Le sophisme consiste en ceci, qu'on suppose que la grandeur égale, animée de la même vitesse, se meut dans le même temps, soit relativement à la masse qui est en mouvement, soit relativement à la masse qui est en repos. Et c'est là l'erreur. paragraphe 11. Soit, par exemple, les masses égales en repos, représentées par A, 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 A. Soit, d'autre part, B, 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 B. Les masses égales en nombre et en grandeur OA, mais qui partent du milieu de la longueur des A. Soit enfin C, 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 les masses égales aux autres en nombre, en grandeur, et égales au B en vitesse, mais qui partent de l'extrémité. Le premier B est bien en effet au bout en même temps que le premier C, puisque le mouvement des uns et des autres est parallèle. Les C ont bien aussi dépassé tous les A. Mais les B ne sont qu'à la moitié. Donc, suivant Zénon, le temps n'est aussi que la moitié, puisque de part et d'autre, c'est parfaitement égal. Mais il arrive que les B ont en même temps dépassé tous les C, car le premier C et le premier B sont en même temps aux extrémités contraires. Le temps pour chacun des B étant tout à fait égal à ce qu'il est pour passer chacun des A, si l'on en croit ce que dit Zénon, parce que tous deux arrivent dans un même temps à dépasser les A. Paragraphe 12. Telle est la théorie de Zénon, mais elle pêche ainsi que nous l'avons dit. Paragraphe 13. Quant à la nôtre, elle ne conduit à aucune impossibilité par rapport au changement qui a lieu dans la contradiction. Par exemple, si l'on objecte que le corps, qui n'est pas blanc, changeant en blanc, n'est, à un instant donné, ni l'un ni l'autre, de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'il soit blanc, et qu'on ne puisse pas dire davantage qu'il ne soit pas blanc. Je réponds qu'on n'a pas besoin, pour affirmer que le corps est blanc ou qu'il n'est pas blanc, qu'il soit tout entier, l'un ou l'autre. Car on dit d'une chose qu'elle est blanche ou qu'elle ne l'est pas, sans qu'elle le soit tout entière. Et il suffit que la plupart de ses parties, ou les plus importantes, le soient. Mais ce n'est pas la même chose de ne pas être dans tel état ou de ne pas y être tout entier. Il en sera de même tout à fait pour l'être et le non-être, et pour toutes les autres oppositions par contradiction. Car il faut nécessairement que la chose soit dans l'un des opposés, mais elle n'est pas toujours tout entière dans aucun des deux. Paragraphe 14. D'autre part, pour le cercle, pour la sphère, et en général, pour tout ce qui se meut sur soi-même, on prétend bien que les corps seront en repos, attendu que ces corps et leurs parties, étant durant quelque temps dans le même lieu, il en résulte par conséquent qu'ils seront à la fois et en mouvement et en repos. Paragraphe 15. Mais d'abord, je réponds que les parties ne sont jamais un seul moment dans le même lieu. Paragraphe 16. Puis ensuite, on peut même dire que c'est le cercle entier qui change toujours en un autre, car la circonférence n'est pas la même selon qu'on la prend du point A ou du point B ou du point C, ou de tels autres points, si ce n'est de la même manière que l'homme musicien est aussi homme parce que sa qualité de musicien n'est qu'accidentelle. Par conséquent, une circonférence change toujours en une autre et elle n'est jamais en repos. Il en est tout à fait de même aussi pour la sphère et pour tous les corps qui se meuvent sur eux-mêmes. Chapitre 15. Sommaire. L'indivisible ne peut avoir de mouvement, dans le sens absolu de ce mot, bien que l'indivisible puisse indirectement se mouvoir avec la chose dans laquelle il est. Démonstration de ce principe. Le temps ne se compose pas d'instants, non plus que la ligne ne se compose pas de points. L'indivisible ne se meut pas parce qu'il n'y a pas de mouvement proprement dit dans la durée d'un instant. Paragraphe 1. Ceci démontré, nous prétendons que ce qui est sans partie ne peut avoir de mouvement, si ce n'est indirectement. Et par exemple, l'indivisible ne se meut que par le mouvement du corps ou de la grandeur quelconque dans laquelle il est, comme une chose qui est dans un bateau et qui n'est mise en mouvement que par le mouvement du bateau même. Ou bien encore, comme la partie est mue par le mouvement du tout. Paragraphe 2. Quand je dis « sans partie », j'entends ce qui est indivisible sous le rapport de la quantité. Paragraphe 3. Car les mouvements des parties sont différents selon que ces parties elles-mêmes se meuvent ou que c'est le tout lui-même qui est en mouvement. Où l'on peut bien observer cette différence, c'est dans la sphère. Car la rapidité des parties qui sont au centre, ou des parties qui sont à la surface, ou de la sphère elle-même, n'est pas identique. Et c'est bien la preuve qu'il n'y a pas un seul mouvement. Paragraphe 4. Ainsi donc, nous le répétons, ce qui est sans partie peut se mouvoir comme se meut la personne assise dans un bateau, par cela seul que le bateau est en marche. Mais en soi, ce qui est sans partie ne peut pas se mouvoir. Supposons en effet que le corps change de AB en BC, soit d'ailleurs qu'il change en passant d'une grandeur à une autre grandeur, soit en passant d'une forme à une autre forme, soit que ce soit par simple contradiction. Soit D, le temps primitif durant lequel le corps change. Il y a nécessité que l'objet dans le temps où il change soit tout entier ou en AB ou en BC, ou qu'une de ses parties soit dans l'un et qu'une de ses parties soit dans l'autre, puisque tout ce qui change est soumis à cette condition ainsi que nous l'avons vu. Mais d'abord, une partie de l'objet ne pourra être dans l'un et dans l'autre, car alors l'objet serait divisible. De plus, il ne peut pas davantage être dans BC, car alors il aura changé, et nous supposons qu'il change. Reste donc que l'objet soit dans AB durant le temps où il change. Donc, il y sera en repos, car être en repos signifie, ainsi que nous l'avons dit, se trouver dans le même état durant quelque temps. Donc, par conséquent, ce qui est sans partie ne peut ni se mouvoir, ni éprouver un changement quelconque. Paragraphe 5. il n'y aurait qu'un seul sens où l'on pourrait dire que le corps se meut. C'est le cas où le temps se composerait d'instants, car le corps aurait été un et il aurait changé toujours dans un instant. De telle sorte qu'on pourrait dire que l'objet n'est jamais actuellement en mouvement ou qu'il y a toujours été. Mais nous avons antérieurement démontré que c'est là une chose impossible, car le temps ne se compose pas plus d'instants que la ligne ne se compose de points, ni que le mouvement ne se compose de motions successives. Et si l'on soutenait cette théorie, cela reviendrait absolument à dire que le mouvement se compose d'éléments sans partie, par exemple, comme le temps qui se composerait d'instants et que la grandeur se compose de points. Paragraphe 6. Une autre conséquence évidente de ceci, c'est que le point, ni aucun indivisible, ne peut avoir de mouvement. En effet, aucun corps en mouvement ne peut, dans son mouvement, parcourir un espace plus grand que lui, sans avoir préalablement parcouru un espace égal à lui-même ou un espace plus petit. Cela est posé, il est évident que le point parcourra un espace ou plus petit que lui ou égal à lui avant de parcourir tout autre espace. Mais le point étant indivisible, il est bien impossible qu'il parcoure préalablement un espace plus petit que lui-même. Il parcourra donc un espace égal, et par conséquent, la ligne sera composée de points, car, ayant un mouvement égal à lui-même, le point finira par mesurer toute la ligne. Mais, si cela ne se peut pas, il ne se peut pas non plus davantage que l'indivisible soit jamais en mouvement. Paragraphe 7. Ajoutez que, si tout ce qui se meut doit se mouvoir dans le temps, et que dans un instant il n'y ait aucun mouvement possible, et si le temps est toujours divisible, il s'ensuit qu'il y aura pour tout mobile quelconque un temps moindre que le temps dans lequel il parcourt, en se mouvant, un espace égal à lui-même. Or, ce sera précisément le temps durant lequel il se meut, parce que le mouvement ne peut jamais avoir lieu que dans le temps. Mais il a été démontré plus haut que le temps est toujours divisible. Si donc le point se meut, il y aura un temps plus petit dans lequel ce mouvement aura eu lieu. Mais cela est de toute impossibilité, puisque dans un temps moindre, il faut nécessairement que le mouvement soit moindre aussi. Et par conséquent, l'indivisible serait divisé en parties moindres, comme le temps lui-même serait divisé en temps. Paragraphe 8. Ainsi donc, ce qui est sans partie et est indivisible ne pourrait se mouvoir qu'à une seule condition, c'est qu'il fût possible qu'il y eût mouvement dans un instant indivisible, car cela revient tout à fait au même, et qu'il puisse y avoir mouvement dans l'instant, et que l'indivisible puisse se mouvoir. Chapitre 16. Sommaire. De l'infinitude du changement. Tout changement a nécessairement des limites. Exemples divers. Le changement dans l'espace ne peut pas être infini, mais le mouvement peut l'être sous le rapport du temps. Du mouvement circulaire, Indication d'une théorie sur ce sujet. Paragraphe 1. Mais il n'y a pas de changement qui puisse jamais être infini. Nous avons vu, en effet, que tout changement est le passage d'un état à un autre, que ce soit d'ailleurs un changement dans la contradiction ou le changement dans les contraires. Paragraphe 2. Pour les changements par contradiction, c'est l'affirmation ou bien la négation qui est la limite. Et par exemple, c'est l'être pour la génération des choses, c'est le non-être pour leur destruction. Paragraphe 3. Quant aux changements par contraire, ce sont les contraires mêmes qui servent de limite, puisqu'ils sont les points extrêmes du changement. Paragraphe 4. Ainsi, les contraires sont les limites de toute espèce d'altération, car l'altération procède toujours de certains contraires. Paragraphe 5. De même encore pour l'accroissement et la décroissance, car à la limite de l'accroissement, est l'acquisition même de la grandeur que la chose doit atteindre d'après sa propre nature, et la limite de la décroissance est la disparition de cette même grandeur. Paragraphe 6. Mais le déplacement dans l'espace n'est pas fini et limité de cette manière, car il ne se fait pas toujours dans les contraires, mais, comme on dit d'une chose qu'elle ne peut pas avoir été coupée de telle manière, parce qu'elle ne peut pas, en effet, l'avoir été du tout, le mot d'impossible ayant bien des acceptions diverses, ce qui est ainsi impossible ne peut pas être actuellement coupé. Et d'une manière absolue, ce qui ne peut pas être arrivé n'arrive jamais, et ce qui ne peut pas du tout changer, ne change jamais en la chose dans laquelle il ne peut changer. Si donc le corps qui se déplace change en quelque chose, c'est qu'il peut avoir changé. Donc, le mouvement n'est pas infini et il ne parcourra pas une ligne infinie puisque, en effet, il est impossible de la parcourir. Paragraphe 7. Il est donc évident qu'il n'y a pas de changement infini en ce sens qu'il soit sans limite qui le détermine. Paragraphe 8. Mais il faut voir s'il n'est pas possible qu'il y ait sous le rapport du temps un mouvement infini, un et toujours le même. Rien n'empêche en effet qu'il en soit ainsi, quand ce mouvement n'est pas unique, et quand par exemple, après le déplacement, il y a altération, après l'altération, accroissement, et après l'accroissement, génération. De cette façon, le mouvement peut bien être perpétuel dans le temps, mais il n'est plus unique, parce que tous ces mouvements n'ont pas un mouvement unique pour résultat. Par suite, en supposant que le mouvement soit un, il ne peut y avoir d'infini dans le temps qu'un seul mouvement, et ce mouvement spécial est la translation circulaire. Fin du livre 6.